Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du polyamour, un phénomène qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, et nous allons en parler au travers d'un article qui raconte l'histoire de cette jeune femme de 20 ans qui entretient une relation polyamoureuse avec 4 hommes. Alors, laissez-moi douter ou revenir sur le mot « homme », on va plutôt dire avec 4 garçons ou avec 4 individus de sexe masculin. Avant d'aller plus loin, avant d'entamer l'analyse et de vous dire ce que j'en pense, nous allons lire cet article qui nous dit « Une maman et 4 papas, c'est la formule du couple choisi par ces adultes consentants qui attendent tous les 5 un enfant. La monogamie n'est plus la norme. De nos jours, de plus en plus de couples sont polyamoureux, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à l'image conventionnelle du couple. Ils sont 3, 4 ou même plus dans leur couple. Et cette jeune femme de 20 ans en connaît un rayon sur la pratique. Alors, laissez-moi revenir un peu sur cette question d'âge, parce que 20 ans, elle en fait largement plus. Probablement que le surpoids n'aide pas beaucoup, mais elle ne ressemble pas du tout à une gonzesse de 20 ans. Comme quoi, le McDo, ça fait des dégâts sur la biologie, sur la génétique et sur le vieillissement. Je continue à lire cet article. En effet, Tori, 20 ans, vit une relation polyamoureuse depuis quelques années et elle vient de tomber enceinte. Autour d'elle, 4 garçons pour la combler au quotidien. C'est tous les 5 qu'ils ont décidé d'élever cet enfant. Vous remarquerez que même l'article est un peu revenu sur la définition ou sur le terme d'homme. Maintenant, il parle de garçon. Et il est clair que lorsqu'on voit la dégaine, je sais, on avait dit pas le physique, mais là, je peux pas m'en empêcher, ça va trop loin. Il y a quand même un mec qui a du vernis à ongles. Le rouquin sur la photo a du vernis à ongles. Un peu de sérieux quand même. Je veux bien éviter les attaques sur le physique, mais là, le mec met du vernis, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et d'une façon générale, la dégaine des mecs, le t-shirt Star Wars, t'en as un, tu te demandes ce qu'il fait là, il a pas fini sa croissance. Le truc, c'est un carnage. Elle a choisi 4 bonhommes, mais les 4 fusionnés, ça fait pas un mec normal. Je suis désolé, je suis obligé d'être réaliste sur le sujet. Tu mets les 4 dans un mixeur, il y a rien qui en sort. Tu fais même pas un mec normal. L'article continue, la jeune maman a rencontré ses partenaires particuliers il y a 3 ans. Marc, 18 ans, est un ancien camarade de lycée, Travis, 23 ans, elle le rencontre un peu plus tard. Puis en juillet dernier, elle tombe amoureuse de Ethan et de Christopher, le père biologique du bébé. Chris est le père biologique, a expliqué Tori lors d'une interview. J'en suis sûre et certaine parce que je connais la date de conception. D'après le jour approximatif de la conception, nous étions en vacances. Il y avait donc que nous. Mais pour autant que je sache, socialement, nous allons élever ce bébé ensemble. Ils sont tous papas de cet enfant. Nous sommes tous très excités d'élever un bébé ensemble. Je pense que l'article a été assez mal traduit de l'anglais parce que je vous l'ai déjà dit, j'aime pas le terme excité. En anglais, ça se dit assez facilement I'm excited, mais en français, c'est plutôt de l'enthousiasme. Nous sommes enthousiastes ou heureux, ou on aurait pu trouver une autre traduction. Mais j'en déduis que ça a été rapidement traduit de l'anglais par un Google Translate copié-collé parce qu'il y a des termes qui ne sonnent pas très bien. Et là, je souhaitais apporter une petite précision parce que, quelque part, ce couple polyamoureux, ou plutôt ce groupe polyamoureux, se contredit dans sa pratique. Parce que ça nous explique, ou plutôt la définition qu'on pourrait imaginer du polyamour, c'est que chacun a sa dose de sexe, chacun a accès au sexe de façon équitable. Donc chaque homme a accès à cette femme de façon équitable. Sauf que ce qu'on réalise, c'est que les relations au sein de ce groupe polyamoureux ne sont pas différentes des relations dans la vie réelle. C'est-à-dire que 20% des mecs baisent 80% des femmes. Elle a 4 hommes à sa disposition. Par contre, il n'y a que Chris qui la baise, visiblement. Elle part en vacances seule avec Chris. Chris est le père biologique de l'enfant. Alors, je vais vous retrouver une photo de Chris. Et visiblement, c'est avec lui qu'elle passe le plus de temps. Parce que pour tomber enceinte, vous imaginez qu'il faut pas mal de rapports, ça se passe pas en une fois, surtout avec la fertilité qui baisse. Des couples qui veulent avoir un enfant aujourd'hui vont mettre minimum 3 mois, ou plutôt la femme va mettre minimum 3 mois, 6 mois, 1 an pour tomber enceinte. Parfois, certains essayent pendant 2 ans, 3 ans. La baisse de la fertilité est un vrai sujet. Il y a une baisse naturelle de la fertilité qui est due à notre mode de vie, au stress, à l'alimentation, aux perturbateurs endocriniens, etc. Elle est aussi un autre élément qui est dû au fait que les couples tentent d'avoir des enfants très tard dans la vie. Aujourd'hui, les gens essayent d'avoir des enfants près de la trentaine. Les femmes commencent à penser à devenir mères à 27, 28, 29, 30 ans, jusqu'à 33 ans. Certaines à 37 ans ont encore espoir de devenir mères. Donc finalement, tout ça a fait que la fertilité baisse, hein. Le pic de fertilité chez une femme, c'est 23 ans, 22, 23, 24 ans. C'est là où elle a le plus de chances de tomber enceinte. Et ensuite, ça ne fait que baisser. Et chez l'homme, on va dire que c'est relativement correct jusqu'à 27, 28, 30 ans. Et ensuite, ça baisse. Même si ça n'arrive jamais à zéro, hein, un homme est fertile jusqu'à sa mort. On va dire que jusqu'à 45 ans, 44, 45 ans, par exemple, les instituts de dons de sperme, ou les entreprises, hein, parce que c'est des business, hein, les entreprises de dons de sperme vous acceptent lorsque vous êtes un homme jusqu'à 44 ans, parfois jusqu'à 45 ans. Au-delà, le don de sperme n'est plus possible, parce qu'on considère que il commence à apparaître dans les spermatozoïdes, peut-être des déformations, peut-être des choses qui font que on n'est plus dans une région optimale pour avoir des enfants. Mais là encore, laissez-moi douter, on connaît plein de personnages, de personnalités qui ont eu des enfants à 50, hommes, hein, je veux dire, qui ont eu des enfants à 50, 60, 70 ans. Mon arrière-grand-père a eu un enfant à 78 ans, enfant en parfaite bonne santé, qui a grandi normalement, qui a à son tour eu des enfants, etc. Donc, je pense que pour l'homme, la question est différente. On va dire que c'est peut-être une question de sécurité ou d'optimisation, parce que le don de sperme, c'est un business, et donc on veut des spermatozoïdes d'une qualité exceptionnelle, et c'est pour ça qu'on a mis la barre à 44-45 ans. Mais théoriquement, il n'y a pas de limite pour les hommes. Mais la fertilité baisse, c'est une réalité avec l'âge, et donc vous imaginez un homme de 30, 33, 35 ans qui essaye de mettre enceinte une femme de 30, 33 ans. Ça prend du temps. Là, dans ce cas, on est avec une jeune femme qui est relativement jeune, enfin qui est très jeune, qui a 20 ans, même si je pense qu'elle n'est pas en parfaite santé. Quand tu vois sa dégaine, être obèse comme ça à 20 ans, c'est jamais très sain. À cet âge-là, tu es censé avoir un métabolisme rapide, tu es censé être dynamique, tu es censé avoir le meilleur corps que tu n'auras jamais. Le corps que tu as à 20 ans, 21 ans, c'est le meilleur corps que tu auras jamais de ta vie quand tu es une femme. Donc, être comme ça à 21 ans, ou plutôt à 20 ans, c'est un peu, je dirais, c'est un gâchis, quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle a dû essayer pendant au moins, parce qu'ils sont jeunes, donc on va dire que ça a mis peut-être 3 mois, 4 mois pour tomber enceinte, et elle est convaincue du père biologique, elle connaît l'identité du père biologique sans aucune hésitation. Ça veut dire qu'elle passait la majorité de son temps avec Chris, le père biologique de l'enfant. Et donc la première chose qu'il faut comprendre dans ce groupe polyamoureux, c'est que finalement, l'idée de dire on va être polyamoureux, ça va être génial, tout le monde va baiser à droite, à gauche, c'est complètement faux. Dans les couples polyamoureux, au sein des couples polyamoureux, il y a de la misère sexuelle parce qu'il y en a toujours un qui va baiser plus que les autres, et parfois il y en a un qui va simplement baiser, les autres vont regarder, ils vont être spectateurs, et là aussi ils vont être pourvoyeurs, parce que elle dit gentiment on va élever cet enfant à 5. En réalité, c'est elle et Chris qui vont élever l'enfant. Les autres vont payer le loyer, ils vont payer les courses, ils vont faire le ménage, ils vont être là pour faire le service, quoi. Ça va être des serviteurs. Ils vivent avec l'espoir de baiser la grosse, mais en réalité, ça va être des serviteurs en misère sexuelle qui vont espérer un jour avoir leur tour. Peut-être par accident, une soirée un peu arrosée, ils arriveront peut-être à tremper leur nouille, mais en réalité, ça sera Chris qui la baise de façon régulière. Et là où ça devient encore plus intéressant dans cet article, et là où ça commence à corroborer ce que je suis en train de dire, c'est à un moment, Tori nous dit que elle aimerait que ses autres copains, que ses autres compagnons se trouvent d'autres filles. L'article nous dit, Tori ajoute ensuite que ses fiancés sont eux aussi libres de fréquenter d'autres filles. Deux points, ouvrez les guillemets. Honnêtement, j'adorerais que quelqu'un trouve un second partenaire. Partager le temps et les horaires entre les cinq personnes et s'assurer que tout le monde se sente inclus, c'est assez difficile. Je souhaiterais avoir une autre femme dans cette relation, ça serait vraiment sympa. Et là, ça m'a fait sourire quand j'ai lu cet extrait parce que se trouver une autre partenaire, est-ce que t'as vu la dégaine des mecs? Tu crois vraiment qu'ils vont arriver à pécho une autre gonzesse? Y a que la grosse qui les supporte. Est-ce que t'as vu la dégaine des mecs? Il n'y a aucune femme sensée qui voudra rejoindre ce groupe de polyamoureux. Un groupe polyamoureux de beaux gosses. Bon, ça a peut-être attiré des femmes, des hommes qui sont dans cette tendance. Mais là, c'est l'enfer. T'entres dans la salle de bain un matin, il y a le rouquin par terre qui se met du vernis à ongles. Tu vas regarder un film, il y a le geek qui joue aux jeux vidéo avec son t-shirt Star Wars. T'as l'autre avec les lunettes à droite de la gonzesse au t-shirt rose, là, j'ai déjà oublié son nom. Tori. T'as le mec à droite de Tori, c'est un tueur en série. Le mec, tu regardes son regard, alors déjà, lui, je suis certain que c'est celui qui ne baise pas. Il a jamais gratté un cul de sa vie. Le mec, c'est un criminel. Moi, je me lève, j'habite avec eux, je me lève le matin, je saute par la fenêtre. Donc Tori, elle est marrante. Quand elle dit ah, j'espère vraiment qu'ils vont trouver une autre gonzesse, qu'ils vont ramener une autre femme qui va rejoindre le groupe, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas, un peu de sérieux. Même toi, tu veux pas les baiser. Même toi, tu baises que Chris qui est à sa gauche. Donc, elle est pas sérieuse. Elle est pas sérieuse dans ce qu'elle raconte. C'est du foutage de gueule intégral. En fait, elle a voulu se trouver des mecs qui partagent le loyer. Elle voulait se mettre en couple avec Chris. Chris, il est content, il pécho de temps en temps, puis il va avoir un gamin avec elle. Mais les autres, ils font la vaisselle, le ménage et ils payent le loyer, quoi. Donc, lorsqu'on creuse un peu dans ce phénomène de polyamour, on réalise que c'est pas différent finalement que dans la vie de tous les jours. Hein. C'est la loi de Pareto qui s'impose ou le principe de Pareto. Vous savez, c'est le principe qui dit, en gros, pour résumer, que 20% des efforts génèrent 80% des résultats. Ça ne s'applique pas uniquement aux relations hommes-femmes. Hein. Ça s'applique à plein d'autres domaines. Par exemple, lorsque vous écrivez un mail, 20% du temps vous suffit pour élaborer les grandes lignes, écrire ce que vous avez envie d'écrire, communiquer le message. Et 80% du temps, en général, c'est uniquement du pinaillage, c'est ajuster, c'est relire, c'est vérifier l'orthographe. C'est simplement les petits réglages qui prennent énormément de temps. 20% de ton temps a déjà créé 80% des résultats, c'est-à-dire que 20% du temps que tu as mis, 20% de ton temps que tu as consacré ou du temps que tu as consacré à écrire ce mail a déjà géré 80% de l'information. Et les 80% du temps restant, ça va être que finalement 20% du résultat final. Ça va être de l'orthographe, du pinaillage, c'est important, mais dans le message de fond, ça a relativement peu d'importance. L'essentiel, c'est qu'on comprenne le message. Qu'il manque un point, une virgule, d'accord, c'est bien d'écrire correctement, de façon parfaite, mais honnêtement, pour moi, c'est le message qui est important. D'ailleurs, on a une obsession de l'orthographe en France qui fait que la majorité des gens passent plus de temps à se relire et à corriger qu'à se poser la question de la pertinence du message. Et ça, je pense que c'est un drame et que l'orthographe français doit largement se simplifier, comme l'orthographe anglais d'ailleurs. Hein, l'anglais est une langue extrêmement facile parce qu'il n'y a pas, y a pas d'accent, il n'y a pas de. L'orthographe est beaucoup, beaucoup plus simple, les règles sont beaucoup plus simples. Et ce qui est important en anglais, c'est de communiquer le message. Si on fait quelques erreurs, c'est pas très grave. Même lorsqu'on parle pas très bien anglais dans un pays anglophone, vous verrez que les gens vous tolèrent beaucoup plus. En France, vous pouvez avoir des gens qui parlent très bien français avec un petit accent, on va les crucifier parce qu'on considère qu'il faut parler de façon parfaite. On n'a pas beaucoup de tolérance vis-à-vis des étrangers, par exemple. Alors que dans les pays anglophones, le Commonwealth est tellement grand entre l'accent américain, anglais, néerlandais, irlandais, écossais, jamaïcain, africain, il y a tellement de sons que les Anglais ne font pas trop attention aux sonorités ou aux différences musicales dans les accents. Ils sont beaucoup moins à cheval sur l'orthographe, et ce qui compte pour eux, c'est l'information. Et si vous voulez, la différence culturelle majeure entre le français et l'américain, c'est pour ça que les Américains nous dépassent dans tous les domaines. L'Américain reçoit un message, il a déjà envoyé la fusée et il a mis quatre satellites en orbite. Le français reçoit le message, il va t'emmerder pendant 4 heures avec l'orthographe, avec les formulations, avec c'est pas le bon mot, c'est pas le bon accent, c'est pas la bonne virgule, c'est pas la bonne écriture, c'est pas le bon orthographe. Il va te casser les couilles pendant 4 jours, et après, éventuellement, il va lancer la fusée et les satellites, etc. Et j'ai eu des expériences comme ça avec des profs universitaires. C'était l'enfer en école d'architecture. C'était l'enfer. Et même pour les étudiants étrangers, j'avais un très bon ami coréen, c'était l'un de mes meilleurs poteaux en école d'architecture. Il se faisait trucider par les profs. À chaque fois qu'il rendait un rapport, à chaque fois qu'il rendait une copie, les profs l'humiliaient publiquement en lui disant faut faire attention, faut te faire relire. Et moi j'avais envie de leur dire mais bon sang, il est coréen le mec, il est coréen, il parle français, c'est déjà un miracle, il parlait très bien français. Moi j'arrivais à le lire, j'arrivais à lire, d'accord, il faisait des fautes d'orthographe, mais il est coréen, merde. J'arrivais à le lire, et pour quelqu'un qui avait appris le français en 6 mois, c'était très bien. Eh bien, figurez-vous que comme on est, et encore plus dans le domaine universitaire, des hystériques de l'orthographe, des malades de la langue, des psychopathes du texte, les profs passaient leur temps à l'humilier en public devant tout l'amphi en lui disant faut te faire relire, je peux pas lire ta copie. Il y a un prof qui lui a dit je ne peux pas lire ta copie. Il y a trop de fautes d'orthographe, je ne peux pas lire. J'avais envie de me lever et de tabasser ce prof. J'avais envie de le massacrer. Le mec est coréen, il a appris le français en 6 mois, il s'exprime correctement. Lis sa copie, merde. Lis sa copie, aide-le à avancer. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir ce prof parisien bobo de mes couilles s'exprimer en coréen. J'aimerais bien voir que si lui devait apprendre le coréen en 6 mois, il arrivait à écrire des textes du niveau de ce que faisait le coréen en français. Donc il y a une espèce d'esprit obtus lorsqu'il s'agit de la langue, lorsqu'il s'agit de l'international. Le microcosme et surtout le microcosme parisien fonctionne en circuit fermé. C'est des gens qui pensent savoir, qui pensent avoir la vérité, qui pensent être au centre du monde, alors que ces profs ne réalisent pas qu'ils ne sont plus rien dans le monde. C'est déjà une chance qu'on ait des étudiants coréens qui viennent encore faire leurs études en France. Et pour la plupart, ils viennent parce que c'est gratos, hein. S'ils avaient les moyens, il serait parti ailleurs. D'ailleurs, mon poteau coréen m'a dit, pour être honnête, hein, je vais te dire la vérité, je suis venu en France parce que les études étaient gratuites. Si j'avais les moyens, comme d'autres Coréens plus aisés, je serais allé en Angleterre, je serais allé aux États-Unis. Ça vous donne un peu une idée du niveau de l'enseignement en France et de pourquoi les gens viennent en France. Parce que c'est gratos, hein, c'est ni pour la langue, ni pour le niveau, ni pour rien d'autre. Et tout ça, c'est pour vous dire à quel point l'orthographe est une hystérie française. C'est de la folie, c'est de la folie. On ne fait plus rien, on pinaille sur l'orthographe. On n'a plus de science, on n'a plus de technologie. On se branle sur des copies, sur des pages entières à corriger l'orthographe. On fait plus que ça en fait. Alors que l'anglais est devenu au fil des années la langue de l'information. Les erreurs, les fautes d'écriture, ça a très très peu d'importance. Ce qui est important pour l'anglais, c'est l'information, l'info. Dis-moi quelque chose, parle-moi. Communique-moi quelque chose, donne-moi des infos. C'est pour ça que c'est une langue extrêmement efficace, c'est une langue beaucoup plus efficace que le français. Alors elle est peut-être moins précise, certains diront qu'elle est peut-être moins belle que le français, et encore, hein, ça dépend. Moi je trouve que du Shakespeare, c'est d'une extrême beauté, mais je saurais pas dire est-ce que l'anglais est plus beau, moins beau que le français? Je pense que chacun voit midi à sa porte, hein. Forcément, lorsqu'on est français, on a l'impression que c'est la plus belle langue du monde. Mais je sais pas, tout est relatif. Mais ce qui est certain, c'est que l'anglais est une langue efficace qui n'a pour but que l'efficacité. Et c'est pour ça que c'est la langue de la science, c'est la langue d'Internet. Dès qu'on veut parler clairement, efficacement, rapidement, on passe à l'anglais. Quand on veut pinailler, écrire des choses jolies, on va utiliser le français, l'italien, des langues un peu plus musicales, un peu plus belles, mais qui manquent cruellement d'efficacité. Je trouve personnellement que je réfléchis beaucoup plus facilement en anglais qu'en français. je raisonne beaucoup plus vite en anglais qu'en français. Pourquoi? Parce que je me pose moins de questions sur la forme, sur les expressions à utiliser, sur l'orthographe, sur tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus facile. Rédiger un mail en anglais, c'est un pur plaisir parce que c'est simple, c'est facile. Le langage est très codé, les terminologies sont très techniques, y a pas à se poser trop de questions. Alors qu'en français, il faut faire attention, il faut se relire, il y a beaucoup de subtilités qui peuvent dire des choses différentes, donc il faut faire attention. C'est peut-être pour ça que c'était la langue de la diplomatie à une époque, hein. C'est une langue qui est extrêmement subtile. On peut dire un million de choses différentes si on positionne un mot à l'endroit différent, si on met une virgule un peu plus tôt, un peu plus tard. Enfin, il y a plein de subtilités qu'on peut communiquer au travers de la langue française qu'on ne pourrait peut-être pas au travers de la langue anglaise. Mais l'anglais, ça n'a jamais été la langue de la beauté, de la subtilité, de la finesse. Ça a toujours été la langue de l'efficacité. C'est donne-moi une information, j'ai besoin d'une information. C'est pour ça que dans l'aviation, par exemple, tout est en anglais, les checklists, les process de vérification, parce qu'on n'a pas besoin que ça soit beau. On a besoin de faire décoller le putain d'avion. On n'a pas besoin que ça soit mélodique, que joli, que l'orthographe soit parfait. On a besoin de faire décoller l'avion et de s'assurer que les 350 passagers vont arriver à bon port et vivants. Donc c'est la langue de l'efficacité. Petite parenthèse linguistique fermée. Donc voilà le premier point que je souhaitais aborder, c'est que le polyamour est un peu un mythe et ça profite beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Comme dans la vie réelle, les femmes ont beaucoup plus d'options que les hommes. Et d'ailleurs, conseil aux hommes qui m'écoutent, faites très attention lorsque votre copine vous propose une relation ouverte ou une relation polyamoureuse. Ou si elle vous propose de fréquenter d'autres hommes, d'autres femmes, parce que ce qui va se passer, c'est que elle va baiser. Pourquoi? Parce que c'est très facile pour les femmes de trouver des hommes. Les hommes sont visuels, on baise tout et n'importe quoi. Les femmes sont un peu plus exigeantes. Par exemple, sur Tinder, les hommes valident quasiment 80% des profils. Lorsqu'ils sont là en train de swiper, ils valident quasiment tout. Les femmes ne valident que entre 5 et 10% des profils. Et 10%, je suis généreux. Je pense que les statistiques parlent de 4,5-5%. Les femmes ne trouvent que 5% des hommes sur Tinder séduisants, alors que les hommes trouvent près de 80% des femmes sur Tinder séduisantes. Ou du moins, ils ont au moins envie de baiser 80% des femmes. Voilà pourquoi les femmes ont beaucoup de choix, simplement parce que les hommes ne sont pas assez exigeants. Comme on est visuel, comme on a de la testostérone et qu'on a envie de baiser constamment, on trouve quasiment toutes les femmes baisables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va les épouser ou qu'on va faire notre vie avec. Ça veut dire qu'on a envie de les baiser. Et en général, on ne les revoit jamais. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. C'est simplement une pulsion, c'est la testostérone qu'on porte en nous, qui nous donne envie, de nous reproduire systématiquement. Ou du moins, de nous reproduire au point de vue symbolique. La sexualité n'est plus reproductive, depuis au moins, 50-60 ans. Et j'en avais parlé avec un auditeur sur Patreon, Tintin, je le salue s'il m'écoute. On avait fait un podcast au sujet de l'échangisme. Et il m'avait expliqué qu'au sein des couples échangistes, c'est souvent les hommes qui se faisaient avoir parce que la femme finissait par baiser, parce qu'il y avait toujours des hommes pour baiser, et le mec était là, il traînait, il était assis dans le salon, il regardait sa femme se faire baiser. Et t'en as très peu qui arrivaient à baiser. En général, ça commence par « Ah chérie », c'est toujours la femme qui lance l'idée, « Ah chérie, tiens, ça serait bien qu'on mette un peu, qu'on pimente un peu notre vie, qu'on ait d'autres partenaires, etc. Est-ce que ça te dit de faire de l'échangisme? » Le mec, il se dit « C'est génial, parce qu'elle, elle va baiser, mais moi, j'aurai accès à de la gonzesse aussi, parce que bon, on va imaginer que c'est un couple en fin de vie, ils n'arrivent plus vraiment à s'amuser ou ils n'arrivent plus vraiment à se stimuler mutuellement, ils ont besoin de ce truc, ils ont besoin de pimenter un peu leur vie. Donc, ils vont tenter le libertinage. Et en général, il me dit, ça se finit avec le mec au pied du lit en train de pleurer. Parce que lui, il baisait des meufs, hein, Tintin pratiquait le libertinage, donc il allait chez des couples. Le mec pensait que ça ne le dérangerait pas de voir sa femme se faire baiser. Et il me dit, il y en a, ils éclatent en sanglots quand ils voient un mec viril en train de baiser leur meuf. Parce qu'en général, eux, voilà quoi, c'est des mecs, c'est le candole. Il n'arrive plus à baiser sa femme depuis longtemps, elle ne se donne plus à lui. Souvent, avec l'âge, ils ont la testostérone qui baisse, c'est des couples bourgeois, plutôt âgés parfois, et il n'y a plus vraiment la testo chez le mec pour prendre sa femme ou sa copine. Et il me dit, dans la majorité des cas, c'est les femmes qui en profitent, les femmes se font baiser, tamponner à tout va, et les mecs qui espéraient au travers du libertinage baiser, ne baisent pas tant que ça. Donc la répartition de la sexualité est toujours la même. Ne pensez pas qu'en pratiquant le polyamour ou en pratiquant le libertinage, vous aurez accès à plus de femmes. Si vous êtes déjà un homme en haut de la pyramide qui a déjà accès à beaucoup de femmes, oui, vous faites du libertinage, vous aurez accès à beaucoup de femmes. Si t'es beau gosse, t'auras accès à beaucoup de femmes. Mais comme t'auras accès à beaucoup de femmes dans la vie de tous les jours, ça ne changera absolument rien de ta capacité à avoir accès aux femmes. Par contre, si t'es un homme qui galère dans la vie de tous les jours, que t'es pas physiquement extraordinaire, que t'es pas physiquement ou particulièrement attirant, et que tu penses qu'en faisant du polyamour, t'auras accès à plus de gonzesses, ou qu'en faisant du libertinage, t'auras accès à plus de gonzesses, tu te trompes. C'est ta copine qui va baiser, et toi, en général, tu seras spectateur, ou tu vas passer ta vie sur Internet à essayer de trouver une partenaire polygame. Parce que c'est de ça qu'on parle, hein. Je vois pas pourquoi on a eu utilisé polyamour. Le mot, c'est polygamie. Peut-être que polygamie, ça a des connotations religieuses. Alors, je sais pas pourquoi on n'utilise pas ce terme. On a choisi polyamour. Ça fait plus jeune, ça fait plus branché. Mais c'est de la polygamie, quoi. C'est de la polygamie inversée. Traditionnellement, polygamie masculine, un homme qui a 4, 5, 6, 10 femmes, un harem. Là, on est dans de la polygamie féminine, une femme qui a un harem d'hommes, ou plutôt un harem d'individus de sexe masculin. Encore une fois, j'ose pas utiliser le mot homme avec ces individus. Et honnêtement, je pense que la polygamie ne fonctionne pas lorsque les rôles sont inversés. La polygamie ne fonctionne que pour les hommes, des hommes qui ont beaucoup de femmes, et c'est ce qui se passe en général dans nos sociétés, qu'elles soient officielles ou pas. C'est souvent des hommes d'un statut supérieur qui ont accès à plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que la simple raison, c'est la reconnaissance de la paternité. Lorsqu'un homme a plusieurs femmes, on sait toujours qui est le père. Il y a un mec, une femme tombe enceinte, eh bien, elle est enceinte de lui. Et il était important, à des époques reculées, de savoir qui est le père, parce que c'est lui qui prendra en charge financièrement l'enfant. C'est lui qui apportera la ressource. Lorsqu'on ne sait pas qui est le père, comment va faire une femme qui tombe enceinte? Une femme qui fréquente 10 mecs, elle tombe enceinte. Imaginez des époques où il n'y avait pas de système social, il n'y avait pas la CAF, il n'y avait pas l'État pour les aider. Comment elle se dépatouille avec ce gamin? Comment elle le nourrit? Comment elle s'en occupe financièrement à des époques où il n'y avait pas de test ADN? Donc les femmes ont évolué toujours pour identifier le père, pour savoir qui est le père. Pourquoi? Parce qu'un enfant dont on ne connaît pas le père, eh bien, ça s'appelait un bâtard. Et un bâtard était condamné à souffrir, à se faire maltraiter, à se faire moquer, lui comme la mère, parce que le pourvoyeur n'est pas là, parce que l'homme qui est censé s'en occuper n'est pas là. Donc, historiquement, comme l'identification du père, pour des raisons de survie de la mère et de l'enfant, était indispensable, les femmes ont toujours géré de façon à savoir qui est le père. Donc elle n'avait aucun problème à se partager un sultan, un roi, elle pouvait être 40 dans un harem, même 100, 200. On peut prendre l'exemple de Soliman le Magnifique en Turquie, ou plutôt à l'époque de l'Empire ottoman. Et ces femmes n'avaient aucun problème pour se partager le sultan, et elles n'avaient pas peur de tomber enceinte, parce que si elles tombent enceintes, le père est connu, c'est le sultan. Il n'y a aucun problème, il s'occupera de son fils qui, lui aussi, à son tour, deviendra peut-être sultan si c'est l'aîné. Donc, la polygamie ne peut pas être inversée, même si aujourd'hui on parle de polyamour, parce qu'on est dans des époques différentes, parce qu'il y a l'État qui va s'occuper du gamin, et il sera jamais vraiment tout seul. Il y a le système social, hein, c'est un peu le système social qui a changé la donne en réalité. Mais vous remarquerez que malgré ça, Tori annonce quand même qu'elle connaît le père. C'est très important parce qu'elle dit qu'elle est dans une relation ouverte, polyamoureuse, c'est génial, c'est beau, etc. On compte pas, on partage tout. Mais elle met quand même un point d'honneur à dire « je connais le père ». c'est Chris. Je suis parti avec lui en vacances. Je sais que c'est lui. Donc finalement, on revient toujours à la réalité génétique de l'humain. C'est un peu ça que n'ont pas compris les progressistes, les féministes, les woke. On essaye de greffer des concepts, on essaye de greffer des idéologies sur une biologie qui a évolué sur 3 millions d'années. Et à chaque fois, la greffe est rejetée parce qu'on revient toujours à l'essence. Un père, une mère, un enfant. Elle a beau vivre avec 4 tocards, elle a beau s'afficher à la télé dans un article, expliquer à quel point le polyamour c'est génial, on partage tout, on est heureux. Lorsqu'il s'agit de son enfant, tout de suite, elle arrête de jouer. Je connais le père, c'est Chris, on est parti en vacances, on a fait un gamin. Il n'y a plus de polyamour. Si elle croyait vraiment au polyamour, elle n'aurait jamais dit que Chris était le père. Elle aurait dit, je sais pas, moi je baise avec tout le monde, je suis ouverte, je n'ai aucun problème, et puis si je tombe enceinte, on s'occupera tous du gamin. Alors là, elle a dit, on s'occupera tous du gamin. Par contre, avant de dire ça, elle a quand même mis un point d'honneur à dire, c'est Chris le père. Je le connais, c'est lui, on a baisé pendant les vacances. Donc finalement, la biologie, l'évolution, la génétique fout constamment des tartes monumentales, des claques de réalisme au wokisme, au gauchisme, à tous ces concepts pondus qui ne tiennent pas la route. Il n'y a rien qui tient la route face à un truc qui s'est forgé sur 3 millions d'années. Le sociétal ne rivalisera jamais avec la réalité génétique. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme veut savoir qui est son enfant et l'homme veut transmettre. Aucun homme ne veut élever un enfant qui n'est pas le sien. Pourquoi ? Parce que la seule raison de vivre d'un homme, c'est de transmettre ses gènes et de les graver dans l'éternité. Il n'y a que ça qui est important chez l'homme. L'envie de baiser, l'envie de procréer, l'envie de balancer la purée, l'envie de balancer sa semence ne se résume qu'à une seule envie, celle de devenir immortel. C'est la peur de la mort qui nous donne envie de nous reproduire. C'est quelque chose dont Richard Dawkins a extrêmement bien parlé dans Le Gène égoïste, un livre que je vous recommande de lire, un livre sublime qui mériterait un podcast entier à lui tout seul. Il explique, pour le résumer simplement, que nous sommes esclaves de nos gènes et que tous nos comportements sont dictés par la volonté de nos gènes de se reproduire, de passer dans un autre corps. Quelque part, le corps n'est qu'un véhicule pour ces gènes qu'ils vont quitter. Ils vont quitter ce corps pour passer dans un autre corps et continuer leur voyage perpétuel dans l'éternité. L'envie de procréer, ce n'est que l'envie de devenir immortel parce que nos gènes sont immortels. Les gènes que vous portez en vous sont des gènes qui ont voyagé depuis des millions d'années, qui sont passés d'un véhicule à l'autre pour enfin arriver chez vous. Et vous n'êtes qu'un des véhicules que les gènes, le gène égoïste, utilisent pour poursuivre son voyage dans l'éternité. Et c'est pour ça que le comportement d'un homme qui va élever l'enfant d'un autre est complètement antinaturel. Alors peut-être vous allez me dire « c'est virtueux, c'est généreux ». Mais là, on est encore une fois dans le sociétal, on est dans le conte, on est dans un autre délire. On n'est pas dans la réalité de la vie, dans la réalité biologique, dans la réalité génétique. La réalité d'un homme qui élève un enfant qui n'est pas le sien, c'est la réalité d'un homme qui fait un sacrifice qui ne lui sera jamais bénéfique. Parce que ce n'est pas ses gènes qu'il est en train de faire voyager dans l'éternité, c'est les gènes d'un autre. C'est pour ça que personnellement, je ne pourrais pas élever un enfant qui n'est pas le mien. Je n'accepterai pas de le faire. Ça n'engage que moi. Je comprends qu'il y a des hommes qui ont dû le faire, qui ont dû adopter, qui sont satisfaits de l'avoir fait. Pas de jugement de valeur, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne pourrai pas le faire parce que je vivrai éternellement avec l'idée que je suis en train d'entretenir un individu et des gènes qui ne sont pas les miens. Je suis en train de faire des efforts, de dépenser, d'élever, d'éduquer un enfant qui portera des gènes qui ne sont pas les miens. Et pour moi, c'est un gâchis, ça ne sert absolument à rien. Mis à part transmettre mes gènes et leur permettre de voyager dans l'éternité, je ne vois aucun autre intérêt à éduquer un enfant. Aucun. Tout le reste, c'est du sociétal, c'est de la branlerie, c'est de la poésie, on appellera ça comme on veut, c'est du dogme. Mais ça n'a rien de réel. Ça n'a rien de réel et 99,999% des gens sont plutôt dans ce schéma-là, des couples qui ont des gamins, qui éduquent leurs enfants pour transmettre leurs gènes, leurs valeurs, leur génétique dans l'éternité et se soulager ainsi de cette peur de mourir. C'est tout ce que ça fait en fait, avoir des enfants, ça te soulage de la peur de mourir parce que tu as l'impression que maintenant que tu l'as fait, tu peux partir et tes gènes continueront à voyager dans l'éternité. Et je pense consacrer un podcast entier à Richard Dawkins, le gène égoïste. J'en avais déjà parlé à une époque, je manque cruellement de temps pour préparer tous les sujets que j'ai envie de préparer. Il y a des tonnes de sujets que j'ai envie de faire, mais je fais beaucoup trop de choses en ce moment. Et je le ferai à un moment ou à un autre, c'est une question de temps, il est sur ma liste, j'ai une liste de 200, 300 sujets, vous inquiétez pas. J'ai de quoi faire des podcasts pour plusieurs années encore. Et c'est avec grand plaisir que je vous parlerai de Richard Dawkins, qui est l'un de mes scientifiques favoris, préférés. Je l'avais découvert au travers de son livre « Pour en finir avec Dieu ». Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis tombé sur « Le gène égoïste » et d'autres ouvrages. Et bien évidemment, il n'y a pas de surprise. Hein. Tout ce qui n'est pas naturel dans la vie finit mal. Et vous allez me demander comment s'est terminée cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, cet enfant qui est venu au monde avec une mère, quatre papas, cette famille un peu bizarre. Pour le résumer, ça finit mal, ça finit très mal. L'enfant arrive, l'enfant vient au monde et au bout de 5 semaines, Ethan, l'un des copains de Tori, l'un des copains de cette femme, commence à violer l'enfant. Ce mec est un dégénéré, c'est un drogué, il prenait des méthamphétamines, il était en colère parce qu'il ne baisait pas, il faisait partie de ceux qui ne baisaient pas. Finalement, il n'y a que Chris qui baisait en général, les autres étaient en spectateur et pour vous le dire simplement, je pense qu'il payait les factures sans plus et il faisait la nounou, il gardait le gamin. Et aux dernières nouvelles, il aurait violé le bébé de 5 semaines à 3 reprises. Alors ça, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'échappe. C'est des choses que je ne comprendrai jamais. Comment c'est possible? Comment c'est humainement, physiquement possible? Faut vraiment être un dégénéré sous crack, sous amphétamine, sous coke, sous je ne sais quelle autre drogue pour arriver à commettre un acte pareil. Et voilà un peu à quoi nous mène le sociétal, voilà un peu à quoi nous mène le gauchisme, l'égalitarisme, toutes ces idéologies de dégénérés qui n'ont aucun fondement. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, toute la dégénérescence que vous voyez se développer aujourd'hui, finit et finira en drame. Ça finit en suicide, ça finit en viol, ça finit en inceste, ça finit en dégénérescence absolue. Pourquoi ? Parce que c'est de la dégénérescence dès le départ. À quoi voulez-vous que ça mène ? On a des systèmes établis, on a une biologie établie, une génétique établie, une ingénierie formidable, réglée comme une horloge, qui a évolué pendant 3 millions d'années, qui a testé, qui a changé. C'est aussi ça l'évolution, c'est tester, réparer, régler, changer, pour devenir les êtres les plus optimaux, pour devenir des êtres parfaits, pour devenir les êtres les plus adaptés à notre environnement. Et t'as de la gauchiasse qui débarque et qui te dit « non, 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 on va changer ça, le genre n'existe pas, la sexualité n'existe pas, le couple n'existe pas, faut tout changer, tout le monde encule tout le monde, on vit tous ensemble, on fait des bébés, tout le monde les élève. » Ben voilà comment ça finit. Ça finit en pédophilie, ça finit en viol, ça finit en drame, ça finit en merde. Le wokisme, le gauchisme ne produira que de la merde. Voilà donc ce que j'avais à dire au sujet du polyamour. Pour résumer, que ce soit dans les couples polyamoureux ou plutôt dans les groupes, dans les ensembles polyamoureux, eh bien c'est la loi de Pareto qui s'applique. Vous verrez qu'il y a un bonhomme qui baise la meuf. Peut-être que de temps en temps elle va se donner à un autre, mais en général elle aura son préféré et ne vous inquiétez pas, elle s'assurera de savoir qui est le père. Donc finalement, la réalité génétique revient toujours au galop, même dans cette construction sociale pseudo à la mode qu'on a appelé polyamour. Le deuxième point, c'est que la polygamie ne fonctionne pas pour les femmes. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance du père est importante. Toute femme voudra savoir qui est le père. Une femme qui vous dit « je m'en fous, je veux baiser 5 mecs en même temps et je m'en fous de qui est le père » est une menteuse. Et celles qui le font, celles qui se font artificiellement inséminer par exemple, le font simplement parce que le système social a fait que la question de comment s'occuper du gamin est de moins en moins importante parce que c'est l'État qui le fait avec nos impôts. Finalement, c'est tous les hommes qui contribuent à l'éducation des enfants de ces mères célibataires. Mais en général, une femme équilibrée, une femme qui a un vrai instinct maternel, une femme féminine voudra toujours savoir qui est le père. Il n'y a que les dégénérés, complètement flingués par les idéologies féministes, woke et compagnie, qui tombent dans les délires de « je veux pas savoir, je m'en fous », mais toute femme équilibrée veut savoir quel gène elle porte, qui est cet homme, à quoi va ressembler cet enfant. Elles ont besoin de le savoir, c'est naturel et c'est normal. Aucune femme ne veut un enfant d'un clochard. Et dernier point, et c'est un point d'espoir que je vous donne parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui s'inquiètent du développement des idéologies féministes, woke, gauchistes, la fragilisation générale. Ne vous inquiétez pas parce que vous verrez que ce que vous observez et ce qu'on continuera à observer, c'est que la réalité génétique, la réalité de l'évolution foutra toujours des claques monumentales à toutes les idéologies. La dégénérescence a toujours été une parenthèse, une période que connaissent toutes les civilisations qui sont en train de mourir, que connaissent toutes les civilisations décadentes. Mais c'est toujours temporaire, c'est toujours une période qui dure un certain temps, mais qui n'est pas tenable. La dégénérescence n'est pas tenable dans le temps parce qu'elle finit par détruire toutes les sociétés où elle s'implante pour que d'autres civilisations renaissent de ses cendres pour que sur cette destruction, sur ces ruines, se reconstruise une nouvelle civilisation. Et je vous le dis, les temps sont en train de changer et le retour au réel pour ces gens-là sera terrible. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.